Mesdames, Messieurs, c'est un honneur de pouvoir parler en un si beau lieu et dans le cadre cette belle structure qu'est l'Institut d'études avancées. Et je remercie Madame Zumkolk pour cette invitation qui m'honore beaucoup. Le propos vient une séance trop tard, c'est-à-dire qu'il était prévu initialement que je parle il y a un mois, mais il y a un mois, je donnais un autre séminaire, donc je ne pouvais pas être présent. Donc l'ami Bruno Dumézil et moi avons interverti nos propos, mais vous verrez que je ferai cependant le pont, si je puis dire, entre la période du Haut Empire et la période du Bas Empire, appelée indifféremment Antiquité tardive, pour montrer la transition entre une cité banale des Gaules, la petite Lutèce, chef-lieu de la cité des Parisiens, et une ville qui accueille dans certains cas des forces de commandement, parfois même l'empereur, qui est même une fois le siège d'une proclamation impériale, celle de Julien l'Apostat, au début de l'année 360, vers février sans doute, et qui peu à peu va émerger, même si elle reste encore, au moment où nous la quitterons tout à l'heure, à l'ombre de la forte et puissante cité des Senons, dont le chef-lieu est Sens. Donc nous allons peu à peu vers Paris capitale, mais nous nous arrêterons en chemin cette histoire évolutive et pour ainsi dire transitionnelle. Nous partons donc de l'histoire d'une banale cité de Gaule, Haut Empire, dans le courant du IIIe siècle, au début du IIIe siècle. Et pour la connaître, nous avons trois moyens, les textes littéraires, l'archéologie, les découvertes fortuites, le plan de la ville, les amphores, les restes de vie économique, sociale, les nécropoles, tout ce que l'on peut trouver. Et puis, un domaine que certains historiens aiment beaucoup, les inscriptions sur pierre, qui, en quelque sorte, émanent des habitants même d'une cité, de son pouvoir politique, ou même des pierres tombales de simples lutétiens, nous renseignent sur la vie de la cité. Donc, c'est la combinaison de tous ces éléments qui permet d'avoir un panorama de l'histoire d'une cité, quelle qu'elle soit. Je serai très bref dans le panorama chronologique, je ne vais pas vous raconter la période, je la raconterai plutôt à travers l'histoire de la cité pour les Gaules. Cependant, le IIIe siècle connaît à la tête de l'Empire une histoire politiquement discontinue. Il y a une première dynastie, la dynastie sévérienne, qui règne jusqu'en 235, des guerres civiles d'ailleurs à la fin du IIe siècle qui concernent les Gaules avec la bataille de Lyon en février 197, puis donc une histoire discontinue avec divers empereurs qui règnent en diverses aires de l'Empire parfois, dans les années 260 même d'une manière concurrente, avec l'empereur posthume qui s'empare du pouvoir à Cologne et qui règne sur les Germanies, Bretagne et Gaule principalement. Et puis, une fois résolue cette période de crise interne due aussi à des incursions barbares de divers peuples, en partie d'ailleurs déjà romanisés, on a trois grandes phases que nous suivrons et dont je fais un découpage dynastique. Le collège dioclétianéen, naguère appelé tétrarchie, de 284 et dirais-je jusqu'en 324, parce que diverses convulsions mènent en 324 à l'émergence de Constantin comme seul empereur, même si Constantin, c'est le deuxième point, a pris le pouvoir en 306 en Grande-Bretagne, lui règne jusqu'en 337, et sa dynastie, à travers ses fils puis son neveu Julien, se poursuit jusqu'en 363. Et le relais est pris, j'ai fait une faute, c'est 364, je pense, par la dynastie Valentiniano-Théodosienne, où une princesse, Justine, épouse de Valentinien Ier, descend de la famille constantinienne, donc cette dynastie se rattache à la dynastie constantinienne, et c'est Valentiniano-Théodosienne, excusez-moi, j'ai fait deux fautes dans la même ligne, Valentiniano-Théodosienne, qui se poursuit avec Théodose et l'interdiction de la religion traditionnelle, improprement appelée paganisme, puis son fils Honorius en Occident, puis son petit-fils Valentinien III, époux de Galla Placidia. Et c'est le moment, au 5e siècle, où l'Empire ne chute pas, il n'y a pas de, nécessairement de déclin, il n'y a pas de chute, comme on le disait autrefois à partir de Gibbon, l'Empire ne tombe pas d'un coup, mais sur à peu près 70 ans, l'Empire, dans les régions d'Occident, perd des provinces, perd des morceaux, où diverses royautés venues de l'extérieur s'installent d'une façon parfois itinérante avant de se fixer ça et là. Tout cela, vous l'avez vu avec Bruno Dumézil. Donc voilà pour le cadre chronologique dont vous entendrez parler, un troisième siècle assez turbulent à partir des années 250 jusque dans les années 280, le collège dioclétianéen, pendant 20 à 40 ans, dirais-je, Dioclétien lui arrête de régner en 305, mais son système politique se poursuit pendant encore une vingtaine d'années, sous diverses formes, la dynastie constantinienne, puis la dynastie valentiniano-théodosienne. Donc voilà les différentes dynasties, peu importe, je reviens à Lutèce. Nous avons une particularité dans l'histoire des Gaules, c'est que lors de la venue de César, il était évident que les peuples gaulois avaient des villes. César décrit Bourges, par exemple, comme une urbs opulentissima, une ville extrêmement opulente, très riche. Donc les Gaulois connaissaient la ville, des formes d'urbanisme bien spécifique, dont la morphologie est à présent étudiée pour elle-même, mais la structure était tribale. Les Gaulois vivaient en tribus, en peuple. Or, ce que les Romains apportent, au moins dans la Gaule chevelue, c'est-à-dire la Gaule qui constitue la majeure partie de notre pays, c'est la cité, c'est-à-dire une entité politique, et les tribus se transforment en cité. En grec, la cité se dit polis. Les historiens ont pris l'habitude de désigner ce phénomène comme étant la polyadisation, c'est-à-dire la transformation d'une tribu en cité, c'est-à-dire en entité politique. Alors, du coup, comprendre l'histoire de Paris, c'est en fait étudier pour l'époque romaine l'histoire d'une cité qui est un territoire que vous avez ici en blanc, avec, pas nécessairement au centre, mais là, on y est quasiment, un chef-lieu qui est une ville et des agglomérations secondaires sur le pourtour, ou sur l'air plutôt, de ce territoire. Donc, en fait, Lutèce est le chef-lieu urbain et politique de la cité des Parisiens. Une cité est une entité politique, je l'ai dit. Elle est constituée physiquement d'une ville avec, qui s'appelle oppidum la plupart du temps, en latin accessoirement urbs, d'un territoire ager, c'est-à-dire littéralement un terrain, sur lequel il y a des agglomérations secondaires que l'on appelle vici, ce qui a donné évidemment dans la toponymie gauloise puis française des cités, des villes pouvant s'appeler vic, vichy également, et cela a donné dans d'autres contextes vicinal, voisin, etc., et des découpages ruraux du territoire, des cantons. Le territoire est découpé en cantons, en aires géographiques, généralement, mais pas toujours reliés à des vici, à des agglomérations secondaires, et ces cantons s'appellent pagi, un pagus des pagis, et ce terme de pagis a donné des mots comme pays, paysan, c'est-à-dire l'habitant du territoire rural, et dans le domaine religieux, le paganus, l'habitant du pagus, a donné le païen, parce que les campagnes étaient des points de conservatisme religieux. Politiquement, cet ensemble territorial, urbain et rural, est gouverné par une élite, une aristocratie de gouvernement. Je ne l'ai pas mis, mais peu importe. Une aristocratie de gouvernement, les membres de la curie, les membres du conseil municipal, les décurions, membres de la curie, donc, qui sont élus par le peuple pour revêtir les magistratures municipales et présider aux destinées politiques de cet ensemble, en entretenant des relations avec les gouverneurs de la province et puis, dans le cadre de juridictions d'appel ou d'ambassade, avec l'empereur lui-même. Donc un ensemble politique sur une aire géographique avec une structure urbaine politique où siège donc le conseil municipal et une emprise au sol territoriale en grande partie rurale avec divers voisins. Donc ce que je vous décris pour les Parisis, dont vous voyez ici l'étendue du territoire antique, vaut pour à peu près toute la Gaule. Je reviendrai sur ces aspects-là, mais vous avez une idée de l'emprise territoriale de chacune de ces tribus qui ont négocié avec le pouvoir romain le fait de pouvoir avoir une autonomie municipale et de gérer ensuite politiquement leur propre destinée. La Gaule a été conquise en plusieurs étapes par les Romains. La première étape est évidemment la conquête au IIe siècle avant Jésus-Christ de la Gaule du Sud, la Narbonnaise ou Transalpine, dont la capitale est Narbonne. Puis César conquiert la Gaule chevelue et sous Auguste, ou dans les années 20 avant Jésus-Christ ou dans les années 10 avant Jésus-Christ, on ne connaît pas exactement la date, cette Gaule chevelue est divisée en trois Gaules, l'Aquitaine, dont la capitale et Bordeaux, peut-être ne l'est-elle pas dès le début, la question est controversée, la Lyonnaise, dont la capitale est Lyon, et la Belgique, dont la capitale est Reims. Ce qui fait que quatre cités gauloises, Narbonne, Bordeaux, Lyon et Reims, ont une position très élevée hiérarchiquement par rapport aux autres cités. Vous voyez que Paris, Lutèce, est absente de cette liste. Elle n'a pas vocation à être capitale de province. Donc vous voyez à travers ce schéma la Narbonnaise ici, puis les trois Gaules, Aquitaine, Lyonnaise, Belgique, et Paris fait partie de la Gaule lyonnaise. Ce qui fait que la capitale, très excentrée, se trouve être Lyon, assez loin, avec évidemment un réseau de routes qui permet de rallier rapidement la dite capitale. Comme je l'ai dit en anticipant, Lutèce est donc une cité parmi d'autres de la Gaule lyonnaise. C'est une cité pérégrine, c'est-à-dire qu'elle ne reçoit pas un statut à la romaine, elle est juste élevée au rang de civitas, c'est-à-dire de cité. Civitas des Parisii, la cité du peuple des Parisii, donc c'est un ensemble originellement tribal transformé en cité, c'est juste un centre politique local. Les décisions des décurions de cette aristocratie de gouvernement des Parisii ne concernent guère que les Parisii et parfois leurs voisins. Et les Parisii sont un des 60 peuples des Trois Gaules qui se réunissent chaque année dans l'hôtel confédéral de Lyon sur les pentes de la Croix-Rousse pour rendre un culte à l'empereur. Depuis le règne de l'empereur Claude en 48, le droit latin qui permet aux magistrats municipaux des Trois Gaules d'obtenir la citoyenneté romaine et de ne plus simplement avoir la citoyenneté de leur propre cité, mais ils deviennent citoyens romains, ce qui leur donne beaucoup de facilité pour des carrières militaires, des carrières d'État, est accordé donc à l'ensemble des Trois Gaules et donc à la petite cité des Parisiens. Évidemment, la position de Luther, c'est une position qui est initialement commerciale. Elle est traversée par la Seine et par la Marne, et elle est politiquement toute proche de la frontière de la Gaule lyonnaise. Vous voyez, elle fait un pic ici, une sorte de petite enclave vers la Gaule belgique, excusez-moi, on est à la frontière entre la Lyonnaise et la Belgique. Il est difficile de savoir dans l'état de la documentation si cela a des conséquences en termes douaniers, mais je ne le pense pas. C'est à l'extérieur des Trois Gaules qu'il y a de véritables barrières douanières. Et cette petite cité se pare de tout un ensemble monumental à la romaine pendant les trois premiers siècles de notre ère. Donc on la voit, elle se développe sur la montagne Sainte-Geneviève. Sur le plateau de la montagne Sainte-Geneviève est établi le forum avec sa basilique et les grands axes qui descendent vers la Seine, la rue Saint-Jacques qui est l'axe principal. Et le financement de tous ces travaux, et il faut imaginer vraiment que toute la montagne, toute la colline était scandée par tout un système de terrasses et des monuments, dont les thermes du musée de Cluny. C'est la richesse d'une cité commerçante qui permet de financer ces monuments, puisque Lutèce est au cœur d'un réseau fluvial et maritime qui permet de relier par le biais la Méditerranée à la Manche, par le biais du Rhône, de la Saône, de la Seine, avec des compagnies d'armateurs qui avaient leur siège ici, mais comme en d'autres points, c'est-à-dire les compagnies de nautes, d'armateurs qui font ce commerce par voie fluviale, voire maritime. Donc la prospérité de bon aloi, dirais-je, de la ville est assurée par cette activité-là. Donc le forum est ici, la ville se développe sur la rive gauche et évidemment les îles ont un rôle de passage avec un axe tout à fait intéressant. Le commerce fluvial évidemment est très important. Donc il faut imaginer divers ports fluviaux, on sait qu'il y en avait du côté également de Bercy aux époques antérieures, et vous avez ici le forum, vous avez la rue Saint-Jacques qui est là, donc la basilique civile, le grand hall d'audience relié au forum était longé la rue Saint-Jacques, le boulevard Saint-Michel est par là, et le théâtre est sous Gibert, à l'heure actuelle, au boulevard Saint-Michel, croisement de la rue des Écoles, les thermes de Cluny, les thermes sous le Collège de France, les thermes de la rue Gay-Lussac, diverses maisons ça et là, un quadrillage à la romaine, et voilà pour le plan du forum de Lutèce. Donc un forum, un temple, des grands portiques avec des soubassements, une grande basilique civile, donc une parure monumentale à la romaine, tout à fait classique. L'édit de Caracalla en 212 après Jésus-Christ octroie la citoyenneté romaine à tous les hommes libres de l'Empire. Donc les Lutétiens libres reçoivent la citoyenneté romaine et c'est la fin de l'évolution du statut de pérégrin vers la romanité. Donc on participe dans tout l'Empire à la citoyenneté romaine. Les décennies qui suivent, surtout à partir des années 250, voit le secteur des Gaules connaître un certain nombre de perturbations. Certes, il y a toujours une vitalité des Gaules, comme en témoigne ce document très célèbre, le marbre de Torigny, qui a été retrouvé à Vieux, à 14 km au sud de Caen, dans le Calvados, qui était le chef-lieu de la tribu des Viducas, comme l'indique le nom de Vieux, et qui honore un notable local qui a été prêtre au grand sanctuaire de Lyon, dans la Confédération des Trois Gaules, et qui est un personnage extrêmement important vers le milieu, dirais-je, du IIIe siècle. Mais Donc nous sommes évidemment ici, chez les Vidukas, entre les Bayokas et les Lexoviens, si ma mémoire est bonne. Mais le nord de la Gaule, et pas simplement le nord à certains égards, également le pourtour de la Manche, connaît dans le courant du IIIe siècle quelques incursions de barbares venus au-delà des frontières, en particulier les Francs qui font leur apparition dans les années dans ces années-là, ainsi que les Alamans dans les années qui apparaissent eux dans les années 210 et qui ravagent par phase les Gaules. La cité de Vieux que je vous mentionnais tout à l'heure est détruite à ce moment-là et disparaît comme centre politique. Donc il y a des cités qui ne se sont pas relevées de ces attaques. D'autres ont dû être spoliées, il y a eu des déprédations, on sait que certains barbares sont allés jusqu'au piémont pyrénéen et sont revenus avec du butin au-delà du Rhin, où ils ont perdu des chariots, voilà pourquoi, dans le Rhin, et qu'on a retrouvé, voilà pourquoi on sait quel type de butin ils avaient pu avoir. Et il est assez vraisemblable que Paris ait été touché par ces diverses incursions des années 50 au début des années 280, des années 250 aux années 280. Ce qui explique que le pouvoir impérial se soit morcelé dans le secteur, qu'il y ait eu des proclamations locales d'empereurs susceptibles de répondre à la menace de certains peuples barbares. Donc des crises civiles se surimposent aux crises militaires. Dans ce contexte, certaines cités se dotent de remparts entre la fin du IIIe et le début du IVe siècle après Jésus-Christ. C'est un fait que l'on relève dans de nombreux points de la Gaule. Il y a des vieux travaux d'Adrien Blanchard qui restent toujours très utiles et pertinents, même si parfois on dilate les fourchettes de datation et que l'on se rend compte que certains remparts initialement datés du IIIe siècle, peuvent avoir daté du Ve siècle. Donc, une certaine prudence méthodologique s'impose. Il ne faut pas imaginer que tout d'un coup, à cause de la menace barbare, la Gaule s'est hérissée de remparts. Le rempart a deux fonctions. La première est évidemment défensive. Mais, comme René Rebuffat l'a bien montré, il y a aussi une affaire de prestige et de monumentalisation de la ville qui permet, quand on vient depuis la campagne, de voir une sorte de muraille crénelée ou pas, des tours qui montrent son importance, sa puissance, sa beauté. Donc, comme au Mans, par exemple, où le rempart est polychrome et particulièrement beau. Donc, cela peut être aussi un instrument de prestige, un outil d'embellissement de la ville financé par les notables, avec les autorités provinciales qui aident les cités, dans certains cas, à gérer ce genre de travaux. Je donne un exemple, parce que Paris est un cas exceptionnel, un exemple assez classique qui est celui de la cité du nord-est des Parisiens, les Sylvanectes, il faut comprendre, Senlis. Et vous voyez ici la muraille du IIIe siècle qui est en bonne partie conservée encore de nos jours. Comme il n'est pas rare, le groupe épiscopal, la cathédrale ici et puis le palais de l'évêque qui s'appuie sur la muraille, comme on a des exemples. Alors cela vient plus tard, hein, le groupe épiscopal, courant du IVe siècle la plupart du temps, mais on se sert de la muraille pour protéger aussi le groupe épiscopal plus tard. On a d'autres cas, Toulouse, Luc en Italie, le chapitre épiscopal à chaque fois, le groupe épiscopal, excusez-moi, était à côté de la muraille. Lutèce, cependant, ne se dote d'une muraille, mais autour de l'île de la Cité, le reste de l'agglomération est une ville encore ouverte, sans rempart. Comme je viens de le dire, c'est l'île qui est sainte d'un rempart, Il est agréable d'être ici pour pouvoir montrer aussi le réseau d'îles, puisque c'est ce qui se passe sous nos pieds. Donc l'île Saint-Louis est un conglomérat, enfin n'est même pas un conglomérat, c'est une sorte de petit archipel. Il y en a une autre là, comme je le montre, comme l'autre... Non, l'autre figure ne le montre pas, c'est une autre figure, mais peu importe. Et l'île de la Cité est ceinte d'un rempart, et là aussi... la cathédrale, le siège de l'évêque, est contre le rempart. C'est la création de l'église mérovingienne de Saint-Étienne qui deviendra plus tard Notre-Dame. Donc vous voyez ce rempart que l'on trouve en divers points de l'île de la Cité, que ce soit dans la crypte archéologique sous Notre-Dame ou encore du côté nord, à l'est du marché aux fleurs, où certains segments ont été vus et sont encore marqués par des pierres de couleur dans le sol. Ici, vous pouvez admirer le tracé du rempart tout à l'heure en sortant. Alors, ce rempart... est très composite, il est fait, comme il n'est pas rare, de remplois de monuments de la ville, des mausolées, parfois des monuments publics, donc des zones de nécropole ont été pillées, sans doute parce que des tombeaux étaient tombés en désuétude pour bâtir un peu à la hâte ce rempart. La chose n'est pas sans exemple. Quand on a démantelé à la fin du XIXe siècle dans la ville de Saintes, en Charente, le rempart, on a retrouvé beaucoup de monuments antiques, publics, privés, de la cité des Santons. Donc, le remploi est une chose assez fréquente. Il n'est pas très précisément daté, mais on le date entre la fin du IIIe et première moitié du IVe siècle. Il y a de plus diverses implantations sur l'île de la Cité, sur lesquelles je reviendrai tout à l'heure en vous remontrant ce plan. Contemporainement à cela, la Gaule lyonnaise, dans laquelle se trouve la cité des Parisiens, dont le chef-lieu donc est la ville de Lutèce, connaît un nouveau découpage administratif. L'empereur Dioclétien, pour mieux asseoir les rentrées d'impôts avec des cités plus petites et en multipliant les capitales comme chef-lieu de pouvoirs provinciaux, scinde les provinces en deux ou trois. Donc, par exemple, l'Afrique proconsulaire est coupée en trois provinces, là peut-être même quatre si la Numidie n'était pas créée avant, ce qui est incertain. La Gaule lyonnaise est coupée en deux provinces, la Lyonnaise première, dont Lyon est la capitale, et la Lyonnaise deuxième ou seconde, dont Rouen est la capitale. Donc, deux pôles. Émerge Lyon, enfin qui existait déjà évidemment, et Rouen comme deuxième capitale du secteur. Et ces provinces sont regroupées dans ce que l'on appelle des districts, c'est-à-dire des diocèses civils. Des diocèses sont des regroupements de provinces. Cela n'a rien à voir avec le diocèse d'un évêque tel qu'on le verra émerger dans le courant du Moyen-Âge. Dioikésis en grec signifie district administratif. C'est un terme que l'on a déjà dans l'Égypte hellénistique et dans tout le vocabulaire grec. C'est une subdivision, district. Donc, la totalité de l'Empire romain est divisée en diocèses, le diocèse des Espagnes, le diocèse de Viennoise, dont le chef-lieu est Vienne, le diocèse des Gaules, dont le chef-lieu est Trèves, le diocèse de Bretagne, le diocèse de Pannonie, le diocèse d'Italie, le diocèse d'Afrique, etc. Donc, vous voyez que se mettent à être créés des regroupements de provinces gérés par des vicaires qui sont des substituts littéralement, un vicarius, c'est formé sur vicé, vis, et qui sont des substituts du préfet du prétoire qui dirige plusieurs diocèses. Donc il y a l'empereur, le préfet du prétoire qui dirige des grandes tranches de l'Empire avec 2-3 diocèses sur sa juridiction. Sous sa juridiction, il y a à peu près 4 préfets du prétoire. et à la tête du diocèse le vicaire, gouverneur civil, administratif, et en dessous du vicaire, les gouverneurs de chacune des provinces. Alors, Lutèce fait partie de la nouvelle province de Lyonnaise seconde, créée ainsi sous Dioclétien, dans les années 290-300, et la capitale est Rouen. Donc, Lutèce dépend de Rouen. Vous avez ici les frontières de la Lyonnaise seconde qui sont ici, donc elle est là, tandis que la Lyonnaise première est ici. Alors, l'histoire de la cité n'est pas perceptible à travers les sources littéraires au début du IVe siècle. Mais dans le cadre général, on sait que Constantin a implanté son règne pour à peu près les 6 premières années en Gaule, de 306 à 312, et il réside régulièrement à Trèves, à Arles. Il doit passer sans doute par Lyon, évidemment, et par Vienne, qui sont sur le trajet, avant de se lancer à la conquête de l'Italie contre Maxence en 312. Donc il doit y avoir une phase constantinienne importante, mais elle paraît concerner plutôt d'autres grands pôles. Mais la chose intéressante est que Constantin, premier empereur chrétien, utilise comme conseiller des évêques de grandes capitales, l'évêque de Cologne, un évêque espagnol, celui de Cordoue, l'évêque d'Arles à certains égards. Donc les temps sont en train de changer, même si la religion traditionnelle publique reste le cadre des pratiques. À l'intérieur de chaque cité, il y a toujours des pontifes, des augures dans les cités, des prêtres traditionnels, et le christianisme n'émerge pas d'une manière statistiquement forte encore à cette période. Je reviendrai sur les premiers évêques chrétiens, tout à l'heure. La ville, la cité, sort de son indétermination sous le règne de Julien, appelé neveu de Constantin, c'est le fils d'un frère de Constantin, qui est chargé de diriger les affaires militaires en Gaule, la défense en particulier de la frontière rhénane, où il mène plusieurs campagnes pour le compte d'un des fils de Constantin qui est empereur. En effet, un fils de Constantin, Constance II, règne seul dans l'Empire, après que ses frères se sont entretués ou ont été tués par des usurpateurs. Donc Constance II règne seul de 350 à 360. Il y a une usurpation pendant 3 ans, de 350 à 353 en Gaule, mais la Gaule est récupérée par Constance en 353. Il envoie son cousin Julien avec le titre de César, c'est-à-dire littéralement, enfin pas littéralement, de prince adjoint, si l'on veut, avec une dignité inférieure à celle d'empereur, qui est Augustus, Auguste, et Julien guerroie dans la zone rhénane et dans les Gaules pendant quelques années, à peu près de 355 à 360. Voici Julien, à l'origine sans barbe, puis devenu empereur. Là, c'est le type de César. Puis ici, avec la barbe, avec le type d'Augustus. Et Lutèce se met à revêtir à ce moment-là un rôle pas exactement militaire, mais plutôt de base arrière pour la défense à la fois du secteur rhénan, le terme de province que j'ai mis est impropre, du secteur rhénan, et également du littoral, où il a pu arriver qu'il y ait, en particulier au IIIe siècle, mais il y a toujours de la pénétration venant de la mer du Nord, de la piraterie d'une façon récurrente. En effet, les derniers travaux de toute une équipe d'archéologues autour du numismate Anthony Austin ont détecté les traces de monnaies de prestige distribuées aux soldats dans tout le bassin parisien et tout le secteur où cela se met à apparaître dans le courant du IVe siècle. On trouve de plus en plus de traces de présence militaire et on sait que Julien a passé l'hiver dans la région. C'est-à-dire que, j'anticipe, je vais retourner à ma chronologie, pendant plusieurs années, Julien réside à Lutèce. L'année précédente, en 356, si ma mémoire est bonne, il est à Sens, qui est quand même la grosse cité du secteur. Sens est la cité des Senons est particulièrement importante. Elle dispose d'un territoire très étendu, donc c'est le premier endroit où il passe ses premiers hivers dans le secteur. Ensuite, les trois années qui suivent, ou plutôt les trois hivers qui suivent, Julien passe l'hiver à Paris et il témoigne, une fois devenu empereur en 360, il témoigne de son attachement à ce séjour parisien quand il est en Orient, en Antioche, secteur dans lequel il mourra dans une expédition contre les Perses en 363, après que son cousin Constance II est mort en 361 et lui est donné, l'est reconnu comme seul empereur. Julien, passé en Orient, se souviendra avec affection de sa chère Lutèce, comme il le dit. Donc la ville se met à acquérir un statut de ville d'hivernage. Le pouvoir impérial est un pouvoir itinérant, aussi bien dans le domaine résidentiel quand l'empereur est à Rome ou dans une des grandes capitales. Il y a plusieurs palais dans l'Antiquité tardive, dans plusieurs villes, mais même sous le Haut Empire, quand l'empereur est à Rome, il y a plusieurs palais à Rome, plusieurs palais dans la périphérie de Rome, de l'Étrurie jusqu'à la baie de Naples, en Campanie, des grandes résidences, et l'empereur est itinérant d'une résidence à l'autre, comme plus tard les Valois le seront dans le Val-de-Loire, les Bourbons dans le Val-de-Loire parfois et surtout dans l'Île-de-France. Donc l'empereur romain bouge tout le temps avec sa chancellerie, etc. Et quand l'empereur mène des expéditions militaires dans certains secteurs frontaliers, il n'est pas rare qu'il passe l'hiver en retrait. On a plusieurs cas sous le Haut Empire, cela pour montrer qu'il n'y a rien de nouveau. Par exemple, quand Auguste guerroie en Espagne citérieure ou Espagne tarraconaise, il va guerroyer vers l'ouest de la péninsule ibérique, dans la zone nord-ouest atlantique que l'on appelle la Cantabrie, la région de Santander, qu'il conquiert contre des populations apparemment irréductibles. Et il passe les hivers à Tarragone, donc sur la côte méditerranéenne, très en retrait par rapport à la zone de front, et parfois il va à Narbonne, à Nîmes, et peut même monter jusqu'à Lyon. De même, quand Tibère passe guerroie dans la zone danubienne, il passe l'hiver à Aquilée, où son épouse, Julie, fille d'Auguste, donne naissance à un fils. De même, quand le frère de Tibère, Drusus, guerroie pour conquérir la vallée du Rhin, la Germanie. Il passe l'hiver à Lyon, où reste sa famille, par exemple son épouse Antonia, qui donne naissance au futur empereur Claude à Lyon. Donc des zones résidentielles où la famille impériale réside. Et on sait que la femme de Julien Hélène, fille de Constantin, elle porte le même nom que sa grand-mère, mère de Constantin, Hélène, sainte Hélène. Hélène avait accompagné Julien dans ses premiers hivers. Donc, il faut supposer que la femme de l'empereur, on ne peut pas dire impératrice parce que le titre n'existe pas, mais que la femme de l'empereur résidait dans un de ses centres et elle n'allait pas évidemment jusqu'à la zone de front. Parfois, si, hein, on a des cas de femmes qui vont jusque dans les zones de front et résident dans les camps militaires avec leur mari, comme Agrippine l'aînée, femme de Germanicus à Cologne, et elle donne naissance à Agrippine la jeune, femme de Claude à Cologne, d'ailleurs. Donc, il faut imaginer que Julien vient passer ses hivers à Paris, à Lutèce, très exactement, et puis, dans la saison qui va de mars à octobre, il va guerroyer dans la zone rhénane, ou Cisrhénane. Donc, il réside ici, c'est-à-dire, enfin pas ici, dans l'île à côté, nous ne sommes pas dans la bonne île, dans l'île juste à côté, et c'est sans doute, alors peut-être que ce que l'on appelle le palais, c'est-à-dire une structure résidentielle, avait déjà émergé dans la première moitié du IVe siècle, si la cité était devenue une étape lors de voyages de gouverneurs. Les gouverneurs étaient itinérants, eux aussi, c'est-à-dire que sous le Haut Empire comme sous le Bas Empire, le gouverneur rend la justice, il a une juridiction d'appel, les citoyens sont jugés par les magistrats de leur cité, les chefs de la cité, les magistrats supérieurs de la cité, mais ils ont une juridiction d'appel, dans des cas bien déterminés, auprès du gouverneur. Et le gouverneur fait chaque année des tournées judiciaires dans la province, donc il doit passer la nuit quelque part, et il y a parfois des structures qui peuvent l'accueillir, ou bien chez des riches citoyens, ou bien parfois, peut-être, des structures de type palatial susceptibles de l'accueillir. Toujours est-il que Julien réside dans l'île, nous verrons les témoignages tout à l'heure, et se constitue à l'ouest de l'île, à l'emplacement, enfin c'est le noyau du futur palais de justice, du futur palais mérovingien. Il se constitue donc cette structure résidentielle avec là aussi une fortification où on a retrouvé des blocs de mausolées en remploi ou de monuments figurés qui pouvaient être des grands monuments publics. Et vous avez ici l'abside de la Sainte-Chapelle sur ce schéma, et ici vous avez un des murs du palais tardo-antique fortifié. Donc on est vraiment dans le secteur du palais de justice actuel. Et à l'est, à l'emplacement de l'actuel marché aux fleurs, on a retrouvé les traces d'un immense bâtiment à trois nefs qui a de fortes chances d'être ce que l'on appelle une basilique civile, une basilique à l'origine, une basilique, c'est un adjectif qui signifie une royale, littéralement, basileus signifie le roi en grec, et basilique était un adjectif qui désignait une stoa, c'est-à-dire un portique. Donc une basilique stoa, et on a fini par dire une basilique, c'était à l'origine un portail royal, puisque des rois construisaient ces grands halls dans lesquels ils accordaient des audiences ou rendaient la justice. Et ce type de structure a été repris par les Romains qui en ont construit sur le forum romain des grandes basiliques, et ce qui a fini par donner la structure des lieux de culte chrétiens dans le courant du IVe siècle, mais cette fois ce sont des églises, puisque les chrétiens font le culte à l'intérieur d'un bâtiment couvert, tandis que dans la religion traditionnelle, le sacrifice se faisait à l'extérieur du temple, on ne pénétrait pas dans le temple, sauf dans le cas de certaines religions. Donc la création de ce grand hall juste à côté du palais témoigne sans doute de sa fonctionnalité, c'est-à-dire qu'il devait y avoir des audiences qui devaient y être données, la justice devait y être rendue, il pouvait y avoir des réunions avec une partie de l'armée. Bref, la ville est en train de se doter de structures importantes, propres à une activité de gouvernement ou en tout cas de résidence du prince, saisonnière, en fonction de la menée de la guerre. Et voici donc les quelques traces vous voyez, vous avez ici le tribunal de commerce, là, l'hôtel Dieu ici, et le marché aux fleurs. Et on a retrouvé des traces donc d'une énorme structure. Ces arcs de décharge témoignent vraiment de que ces murs portaient de très fortes structures. Certains pensent même à des espaces voûtés, la chose est assez incertaine, mais des murs très hauts, puisque la base en est particulièrement imposante. Donc il faut imaginer que Julien a pu rendre la justice dans ce secteur-là. Donc il y passe plusieurs hivers à l'occasion de campagnes qu'il mène dans tout ce secteur entre Belgique actuelle et Rhénanie. Donc il intervient là au beau jour, à peu près de mars à octobre, et pendant l'hiver, il se replie tout d'abord à Sens, puis ensuite à Lutèce. On trouve dans tout ce secteur ce que les archéologues appellent des militaria, c'est-à-dire des monnaies de prestige en or qui témoignent de dons faits par les autorités à l'armée, à des corps de troupes. Donc il y a une forte présence militaire ici, pas nécessairement des camps, mais peut-être des résidences d'hivernage pour l'armée qui se repose au beau jour de l'effort de guerre mené plus au nord. Donc il y a tout un contexte qui ne témoigne pas d'une militarisation de la zone, mais du fait que des militaires viennent y passer leur quartier d'hiver, y prendre leur quartier d'hiver pendant l'hiver. Alors, Julien témoigne de son plaisir de séjourner à Rome à travers divers textes dont j'ai fait un montage à partir des témoignages donnés par Paul-Marie Duval. Il parle de sa chère Lutèce, il la décrit selon toutes les conventions du discours géographique ou de l'éloge des villes. Il y avait des manuels de rhétorique dans lesquels on apprenait comment faire l'éloge d'une ville. On a conservé ceux de Ménandre le rhéteur et ce sont des phrases très convenues. On parle du territoire, on parle de l'alimentation en eau, de l'ensoleillement, des ressources agricoles, de l'hiver, de l'été, des monuments ensuite, de l'histoire de la cité. Donc Julien reproduit nostalgiquement, quand il est en Orient, ses codes rhétoriques pour nous décrire la cité de Lutèce. C'est une île de faible étendue. Donc il réduit l'île il réduit la cité à l'île, ce qui est assez significatif. Nous verrons ce que devient la rive gauche juste après. C'est une île de faible étendue au milieu du fleuve et le rempart l'entoure de toutes parts. C'est confirmé par l'archéologie. Des ponts de bois partis de chaque rive y donnent accès. Il reste rare que le fleuve baisse ou soit en crue. En général, il a le même débit en hiver qu'en été. Il fournit une eau très agréable et très pure à voir, comme à boire, si l'on en a envie. De fait, comme on vit dans une île, c'est surtout au fleuve qu'on doit prendre l'eau. Là, on a des indications sur la vie quotidienne, l'alimentation en eau, chose toujours importante. La ville est bien située, c'est-à-dire qu'il y a tout de même tout le secteur céréalier plus au sud de la cité des Carnutes, la région de Chartres, la Beauce, qui est reliée au fleuve. Hein. Les Carnutes vont, le territoire des Carnutes monte vers le nord-ouest jusqu'à la zone de Bonnières. Et le Mantois, la boucle de Moisson. On peut accéder aussi par voie de terre comme par voie de mer à des ressources agricoles propres à nourrir la suite impériale, des corps de troupes qui viennent hiverner là, le bétail aussi, il y a des animaux et des chevaux qu'il faut alimenter. Le secteur est aussi choisi pour cela. Le fleuve, les routes, le blé. L'hiver est plutôt tempéré, soit en raison de la chaleur venue de l'océan, soit pour une autre raison qui m'échappe. Il parle de la légère brise issue de l'eau qui vient de la Manche. Il décrit cependant la rigueur de l'hiver 358-359. Cet hiver était plus dur que d'habitude. Le fleuve charriait comme des dalles de marbre, et dans un autre passage, il le compare aux carrières de marbre qu'il a vues en Asie mineure dans son enfance. Donc il faut imaginer que de sa fenêtre au palais, ou même quand il sort, il voyait la Seine charrier des plaques de glace comme des plaques de marbre, des dalles de marbre, donc un hiver particulièrement rigoureux. Les blocs glacés de cette masse blanche, blocs énormes qui s'entrechoquaient, n'étaient pas loin d'établir un passage continu, une chaussée sur le courant. Les habitants de la région ont un hiver plus ensoleillé, ils poussent chez eux une vigne de qualité, et d'aucuns sont déjà parvenus à y avoir des figuiers que l'on abrite l'hiver en les habillant en quelque sorte avec des pavillons de blé ou encore avec tous ces revêtements de même ordre dont on protège d'habitude les arbres contre les rigueurs de la température. Donc au IVe siècle, il y avait des figues à Paris. Julien, en bon méditerranéen, en témoigne. Nous avons là un témoignage qui, certes, s'il est convenu, est tout à fait unique. Un empereur qui décrit une petite cité dans laquelle il vivait. C'est quasiment unique, vu l'état documentaire de l'époque. Nous n'avons pas ces indications-là pour d'autres endroits. De plus, Lutèce entre vraiment dans l'histoire, si j'ose dire, par la proclamation impériale de Julien, qui s'y déroule en février à peu près 360. En effet, sa popularité à la tête de l'armée du Rhin fait que la troupe prend l'initiative de le proclamer empereur contre son cousin, l'empereur Constance II, qui est en Orient, à Antioche, où il réside régulièrement, et éclate dans l'île de la Cité des cris. Julien Auguste, la proclamation, le place sur un pavois, ce qui est plutôt une coutume germanique. Là, on peut penser qu'il y a des éléments germaniques dans cette armée qui font cette pratique-là. On lui intima de ceindre le diadème, c'est-à-dire la bandelette qui entoure le front et qui, depuis l'époque hellénistique, est un insigne royal. Un centurion, tout ça sont des documents, pardon, des extraits de l'historien Amien Marcellin qui, dans les années 390, décrit l'usurpation de Julien, dont lui-même a été un des proches, un des gardes, dans les années, évidemment, 360. Donc c'est un témoignage tout à fait autorisé, même s'il n'est pas, pour cette phase-là, nécessairement oculaire. Un centurion nommé Maurus ôta une torsade de son cou éclatant de soldat d'élite et la lui posa d'autorité sur le front. Alors Julien, poussé à la dernière nécessité, réalisa qu'il n'échapperait pas au danger imminent s'il continuait à refuser, et il promit à chacun 5 pièces d'or et 1 livre d'argent. Les fameuses gratifications de l'armée au moment d'une proclamation impériale. Quant à au refus de l'Empire, c'est une précaution rhétorique, c'est le rituel de la recusatio imperii. On ne doit jamais accepter l'Empire avec enthousiasme, il faut d'abord le refuser, pour finalement céder à l'amicale pression de la troupe de comploteurs, etc. Donc Julien pratique tout le rituel de proclamation, mais il va sans dire que cet Empire-là, il le voulait, et qu'il y a bel et bien un coup d'État qui se fait à Paris, à Lutèce, à ce moment-là. Alors Lutèce, voilà pour l'île, et ce que l'on en devine en termes de résidence qui accueille au moins pendant quelques hivers l'empereur, mais la ville connaît les métamorphoses d'une ville du Bas-Empire. Sur ce plan emprunté au petit livre de Sylvie Robin, vous voyez ici, donc, nous sommes sur la montagne Sainte-Geneviève, l'île est fortifiée, il y a d'autres îles, et des secteurs de nécropole à l'extérieur de la ville du Haut-Empire, sur la rive droite aussi, on a plusieurs endroits. Dans l'Antiquité, les nécropoles sont toujours à l'extérieur de la ville. Au Bas-Empire, une grande nécropole se développe dans le quartier Saint-Marcel, dans une anse de la Bièvre, qui à l'époque n'était pas canalisée et qui débouchait dans la Seine, à hauteur de l'Institut du monde arabe. Et les rives de la Seine étaient assez fortement inondables, sauf sur la montagne qui, elle, accueillait évidemment la ville au sec. Donc il faut imaginer des zones semi-marécageuses, des embarcadères, des ponts de bois décrits par Julien reliant l'île aux deux rives, la droite et la gauche, l'axe principal de la rue Saint-Jacques traversant l'île de la Cité pour poursuivre vers le nord et sur la rive droite. Les nécropoles, j'en ai déjà parlé, c'est le moment où la nécropole du Haut Empire, du côté de la rue Saint-Jacques et du boulevard de Port-Royal, rue Pierre-Nicole, etc., peu à peu tombe et désaffectée. C'est cette nécropole qui a livré un visage d'enfant pris dans un cercueil et qui a été moulé et qui est le plus ancien visage parisien que l'on connaisse, qui est particulièrement émouvant. Donc un petit garçon, une petite fille du Haut Empire qui ne devait pas être bien vieux lorsqu'il a trépassé. Et au Bas-Empire, une grande nécropole se trouve dans le 13e arrondissement. On est dans le quartier du boulevard Saint-Marcel, à la jonction de l'avenue des Gobelins. Vous voyez avenue des Gobelins, boulevard Arago, boulevard de Port-Royal, rue de la Reine-Blanche. Une très grande nécropole qui plus tard verra l'implantation d'églises mérovingiennes et qui est, disais-je, dans un coude de la Bièvre, avec sans doute un pont, puisqu'il y a une grande voie qui passe par là, et qui vient du quartier Mouffetard, à peu près. Donc un coude du fleuve. Donc on est vraiment là, à l'extérieur du tissu urbain. C'est la période seconde moitié du IVe siècle, début du Ve siècle, où l'on assiste au démantèlement progressif des structures du Bas-Empire. Déjà au début du IVe siècle, il y avait eu des remplois et de tombeaux, également de monuments publics mal connus. Et le forum de la rue Soufflot connaît, là aussi, fin du IVe, début du Ve siècle, des traces de démantèlement et d'abandon. Ce n'est pas sans exemple. Dans une grande capitale provinciale comme Milan, on arrache les dalles du forum à l'extrême fin du IVe siècle. Et c'est le signe quand même d'un certain nombre de changements municipaux. Les centres municipaux doivent se renfermer peut-être dans les curies, dans divers monuments, et les espaces publics sont peu à peu envahis par l'initiative privée. La fin du IVe siècle, sous Théodose, qui règne de 379 à 395, même s'il y a une usurpation de 383 à 388 qui tient les Gaules pendant quelques années, sous le règne de Théodose, ou peut-être de l'usurpateur, mais Théodose aurait entériné cela, on redécoupe les provinces de Lyonnaise première et de Lyonnaise seconde, et se crée, Lutèce est incluse dans une nouvelle province, la province de Lyonnaise quatrième, Sénonia, qui tient son nom de la cité des Senons, Sens, qui devient donc la capitale de la province. Donc vous voyez, même si Paris a accueilli l'empereur, mais Sens avait accueilli Julien avant Sens avait accueilli Julien avant qu'il n'hiverne à Paris, c'est Sens qui est la capitale provinciale. La carte, les légendes ne sont pas bonnes, la Viennoise est au sud et la Lyonnaise est au nord. Et vous voyez, cette province de Lyonnaise 4e ou Sénonia, c'est Sens qui est la capitale, et Paris est là. Et vous le voyez avec des proportions qui sont un peu plus justes. Voilà Sens, ici, et Lutèce. Cela explique que, dans le découpage ecclésiastique ultérieur, l'évêque métropolite de la province soit l'évêque de Sens. Et plus tard, au Moyen-Âge et à l'époque moderne, il y avait un archevêché à Sens, mais il n'y en avait pas à Paris. C'est sous Louis XIV que l'archevêché de Paris a été créé. Donc cela remonte à l'histoire des découpages civils, administratifs de l'Empire, comme par exemple en Angleterre, il y avait deux évêques principaux, l'un à York, l'autre à Canterbury, et cela remonte au découpage également de la Bretagne en deux provinces, de la Grande-Bretagne en deux provinces. Donc, Lutèce est incluse dans la Lyonnaise 4e Cénonia, dont la capitale est Sens, qui reste le grand centre régional. Il faudra attendre vraiment l'époque mérovingienne pour voir se développer une résidence plus ferme. Deux derniers mots sur à la fois la cité chrétienne et l'appellation de Paris. Évidemment, au IIIe siècle, au milieu du IIIe siècle, un des épisodes les plus célèbres, connu par une première source d'époque mérovingienne au début du VIe siècle, est le martyr de Saint-Denis, qui donc a été décapité à Paris, puis aurait pris sa tête et l'aurait portée jusqu'au lieu qu'il aurait voulu de sépulture à Saint-Denis, tout à fait au nord. Donc le prodige du saint décapité, céphalophore, porteur de sa propre tête et qui marche jusqu'au lieu de sépulture qu'il souhaite, comme l'irrévérencieuse Madame du Deffand disait, il n'y a que le premier pas qui coûte en parlant de ce prodige. On n'est pas l'ami de Voltaire pour rien. Et donc, en fait, on peut tirer de cet épisode plusieurs enseignements. Denis est un nom grec, Dionysios. Donc, il est martyrisé avec un eleutheros, qui signifie libre en grec. Donc, comme à Lyon en 180, c'est une communauté fortement marquée d'hellénisme. Et c'est de l'Orient hellénophone que vient le christianisme. On ne sait pas quand il a été martyrisé, ou bien sous le règne de Trajan d'Èze vers 250, ou sous Valérien vers 258, ou sous Aurélien de 210-275, en tout cas au milieu du IIIe siècle. Des légendes tardives l'ont confondu avec un converti à Athènes par Paul, Denis l'Aréopagite, mais il n'est absolument pas Denis l'Aréopagite, la chose a été tranché depuis longtemps. Le lieu de l'exécution reste très incertain. On pense à Montmartre pour le secteur qui est en dehors de la ville antique, pour lequel il y a deux étymologies. Pour certains, c'est le mont de Mars, Mons Martis, mais pour d'autres, c'est le mont des martyrs, Mons Marturum. Un martyr, c'est un témoin dans un procès en grec, et le martyr est celui qui témoigne pour le Christ. Donc, le mont des martyrs, on ne sait pas exactement de quoi il en retourne. Toujours est-il que la sépulture de Denis, telle qu'elle est perçue, en tout cas au IVe, Ve siècle, quand on la voit vraiment émerger dans des sources vraiment historiques, et dans une nécropole, il n'y a pas encore d'église martyriale, mais c'est plus tard que se créera une basilique martyriale hors les murs, puisque Saint-Denis est très loin, et sur le territoire des Parisiens, mais très loin du noyau urbain de Lutèce, prétendument sur la propriété d'une dame s'appelant Catulla, mais ce n'est pas sûr du tout, et on pense que c'est dans une localité secondaire qui s'appelait le Vicus Catuliacus. Cela marque souvent Acus qu'il y a une propriété d'eux, mais la chose est extrêmement incertaine. Toujours est-il que la tombe de Saint-Denis a été implantée dans un secteur de nécropole. Et là, on est dans un contexte de basilique martyriale en dehors des murs, comme c'est le cas à Saint-Cernin, à Toulouse, par exemple, qui est en dehors de la ville antique. Le premier évêque historiquement attesté l'est au milieu du IVe siècle par des actes de concile. Il s'appelait Victorinus et il est attesté dans les et il est appelé Episcopus Pariseorum, évêque des Parisii, et des listes épiscopales de la cité disent qu'il est le sixième évêque chronologiquement de Paris. Et dans d'autres actes, Il est le 108e évêque à avoir participé au concile de Sardique et le 30e évêque gaulois. Un évêque, il y en a un par territoire de cité. Donc, une cité, un évêque. Donc, l'évêque, c'est le surveillant de la commune épiscopus. Scopein signifie en grec veiller et épi sur. Donc, c'est un surveillant. C'est un terme grec. Et celui de la métropole de province est évidemment plus important que celui des petites cités. Les quatre grandes provinces du secteur ont pour capitale Rouen, Sens, Reims et Tours, qui sont évidemment plus tard des archevêchés. On a quelques inscriptions funéraires du Bas-Empire qui nous montrent au 5e, 6e siècle les tombe des premiers chrétiens, ici une dame appelée Barbara, là un petit garçon appelé Théodotus, et enfin, et c'est la conclusion, Paris change de nom entre Antiquité tardive et au Moyen-Âge. En effet, j'ai parlé jusque-là de Lutèce et de la cité des Parisiens. Lutèce est le nom de la ville, et la cité, comme ensemble, est la cité du peuple des Parisiens. Or, dans l'Antiquité, alors c'est un usage banal d'appeler une cité la cité des. On a au IIe siècle après Jésus-Christ, pour Reims, la cité des Rèmes. Donc c'est un usage banal et une borne miliaire qui apparaît au IVe siècle mentionnant la Civitas Parisiorum que vous voyez ici, disant depuis la cité des Parisii, ici, Aquivitate Parisiorum, Aqueo. Ça n'a rien d'extraordinaire, il ne faut pas déduire de cette apparence, de cette apparition, que le nom de Lutèce avait disparu et que c'était déjà Paris. C'est juste la cité des Parisii. On a d'autres exemples du Haut Empire, c'est une appellation fréquente. Cependant, il y a une caractéristique en Gaule qui est que les noms des peuples ont donné divers toponymes dans la topographie française. C'est le dernier tableau que je vous présente. En effet, des noms de tribus ou de peuples ont donné le nom à la ville. Et le nom de la ville s'efface. Reims, par exemple, s'appelait Durocortorum, et c'était la civitas des Rémorum, des Rémi, et le nom de Reims du peuple est maintenu, le nom de Durocortorum a disparu. Lutèce a disparu, le nom du peuple, les Parisii, reste dans la toponymie. On peut prendre presque tous, la plupart des noms de peuples. Les Lémovis ont donné Limoges. Je dis aux étudiants qu'il faut faire du tribal poursuite en jouant à quel peuple, quelle ville. Les Lémovis, Limoges, les Atrébates, Arras, les Bituriges, Bourges, les Médiomatrices, Metz, les Santons, Saintes, les Élusates, Éos, les Bayocas, Bayeux, les Auski, Hoche, les Suessionnes, Soissons, les Pétrocor, Périgueux, les Namnettes, Nantes, les Éburovis, Évreux, les Vénettes, Vannes, les Ambiens, Amiens, les Rutaines, Rodez, les Bellovaques, Beauvais, les Cadurques, Cahors, les Tricasses, Troyes, les Turons, Tours, les Lingons, Langres, les Carnutes, Chartres, les Catalaonis, Chalons, les Lexoviens, Lisieux. Parfois, des noms de régions sont donnés. Les Viromanduis ont donné le Vermandois, les Calettes, le Pays de Caux, les Convennes, le Couserans, les Andécaves, l'Anjou, les Convennes, le Comminges, les Consorani ont donné le Couserans, les Pictons ont donné le Poitou, les Arvernes, l'Auvergne, les Valences, le Valais. Et parfois, dans quelques rares cas, c'est le nom de la cité qui a été préservé. Aginum était le chef-lieu des Nitiobriges. On a oublié les Nitiobriges, mais on parle toujours d'Agen. Touloum est le chef-lieu des Leucs. On a oublié les Leucs, mais on parle toujours de Toul. Tolosa est le chef-lieu des Volques. On a oublié les Volques, mais on sait toujours où est Toulouse. Et Bourdigalia est le chef-lieu des Bituriges Vivisques, et cela a donné Bordeaux, alors que le nom du peuple a disparu. Donc il faut supposer, puisque ce phénomène s'observe peut-être au-delà de l'Antiquité tardive, il vaut mieux le situer vers le 6e, 7e siècle, que Paris n'est vraiment devenu Paris, avec une appellation du nom de peuple, que dans le très haut Moyen-Âge, au moment précisément où elle devient une résidence royale d'une manière beaucoup plus ferme. Je vous remercie pour votre attention.
Merci beaucoup François Chausson pour cette belle conférence.